Bonjour Eric Woerth.
Bonjour.
Le premier article du projet de réforme des retraites a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Après 8 jours de débat, il reste donc désormais 64 articles et 39 000 amendements à peu près. Pour vous, le gouvernement doit-il renoncer à faire adopter l'ensemble du texte avant le 15 mars ?
Alors je pense que oui. Je pense que le gouvernement doit laisser du temps au débat. C'est un sujet très important. C'est 320 milliards d'euros. Tous les Français concernés, des plus jeunes aux plus anciens. Donc il est très très important de laisser le débat se faire. Il faudrait pas que un texte de cette nature naisse mal, c'est-à-dire qu'on n'ait pas pu en discuter suffisamment. Plus on avance dans le texte, plus il y a de questions qui se posent. Nous les posons, d'ailleurs les Républicains les posent systématiquement, et on voit bien que le gouvernement a bien du mal à répondre. Donc c'est un texte qui est d'une complexité inouïe. Inouï, illisible. Personne ne saura finalement s'il y a gagné ou s'il y a perdu. Et personne ne peut se projeter. Donc il faut débattre. Et on peut pas avoir eu une sorte d'échec devant le Conseil d'État avec des commentaires quand même, le moins qu'on puisse dire, assez peu aimable, un échec en commission puisqu'on a dû arrêter la commission et risquer un échec devant la séance devant le Parlement et puis l'échec de la conférence aussi de financement qui se profile. Un texte comme ça ne peut pas aussi mal naître.
Il faut laisser le temps au débat, il faut laisser le temps d'examiner les 39 000 amendements.
Oui, mais vous savez, on n'en examine pas 39 000. Il y en a qui sont identiques, donc il y a
Est-ce qu'il a du sens le débat, vous qui y êtes à l'Assemblée?
Le débat. Je sais que ça peut paraître comme un peu incroyable de siéger la nuit du dimanche, la nuit du samedi, un peu tout le temps. Tout ça tourne en rond. C'est évidemment des questions qui reviennent souvent. Mais s'il y a plus de lieu où on peut débattre dans une démocratie, à un moment donné, on débat plus, et c'est autre chose. Alors je sais bien que c'est excessif, mais c'est le texte qui est excessif aussi. Nous n'obstruons rien, on ne parle que de fond, on a un nombre d'amendements tout à fait raisonnable. Les Républicains ont, je pense, une vision sérieuse, responsable, crédible de ce texte. D'autres groupes décident de faire autrement. C'est aussi une action politique,
C'est une action que vous respectez, cette obstruction revendiquée, assumée par la France.
Je la respecte, je la condamne pas en tout cas. Pour une raison assez simple, c'est que ce texte est si compliqué qu'il est normal d'avoir ce type de réaction. Dans tout parlement, ce serait le cas, et c'est pas la première fois. Donc qu'y a-t-il de plus urgent que de débattre au fond? Pas grand-chose. Il n'y a pas de texte qui attend derrière d'une urgence folle. Il y a au fond pas de texte, il y a pas d'autres réformes qui se profilent à part l'audiovisuel, mais ça peut attendre. Donc laissons aller, que le gouvernement laisse aller. C'est pas parce qu'il y a des élections municipale que ça change quoi que ce soit à la retraite. Donc laissons aller plusieurs semaines. Ça fait 2 ans que le gouvernement concerte. On se demande sur quoi d'ailleurs. Il lance des concertations maintenant en ce moment sur la pénibilité et le financement. Bon, honnêtement, le texte pourrait être suspendu en attendant d'avoir le résultat de cela. C'est quand même assez étrange de discuter d'un texte aussi incomplet et aussi incompréhensible.
Il n'empêche que la perspective du 49-3 se rapproche, l'adoption sans vote. Est-ce que vous avez l'impression que le groupe La République En Marche soutiendrait unanimement un recours au 49-3 ?
Non, je ne le crois pas, puisque il y a des députés En Marche qui s'expriment de façon différente. Bon, cela dit, c'est pas un problème de groupe majoritaire, c'est un problème de gouvernement. Est-ce qu'on doit rompre brutalement ce débat? Moi, je souhaiterais que ça se passe bien, une réforme des retraites. Il peut y avoir des contestations, mais aujourd'hui, personne ne conteste en réalité pour des raisons claires, puisqu'on ne sait pas. Il y a des interprétations tellement différentes de 1000 sujets, pas de un sujet, de 1000 sujets. Il y a des mesures d'évitement sur l'âge, il y a l'absence de financement, il y a le rôle de l'État employeur. Il y a comme ça 1000 sujets de nature différente. Est-ce que ce sera positif pour les femmes? Est-ce que ce sera négatif pour les femmes? Tout ça nécessite beaucoup d'en parler, d'être examiné sous tous les angles. Il y a eu 2 ans de concertation, de pseudo-concertation par le gouvernement. Il peut y avoir 2 mois d'examen au Parlement. Ce serait pas choquant en tant que tel pour un texte de cette nature. Et honnêtement, il y a des débats tout à fait passionnants. Hier soir, il y avait des débats tout à fait passionnants sur, au fond, doit-on limiter un système universel à un seul plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire en fonction du revenu. La question qu'on pose au gouvernement est de dire aussi, si vous faites ça pour les retraites, si vous bloquez, au fond, l'accès à la sécurité sociale jusqu'à un plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire jusqu'à 40 000 000 euros par an de revenus, est-ce que vous allez le faire pour l'assurance maladie? Est-ce que c'est votre conception de la sécurité sociale? Et il y a des sujets sur lesquels qu'on partage avec le gouvernement, hein, parce qu'on le dit pas assez. Il y a des sujets qu'on partage, le minimum garanti, des points de cette nature, mais il y a beaucoup de sujets qu'on ne partage pas parce qu'on considère qu'on pouvait faire plus simple, plus efficace, plus lisible et donc probablement plus juste.
Parallèlement, donc, vous l'évoquiez il y a un instant, parallèlement au débat à l'Assemblée, une conférence de financement de ce nouveau système de retraite a été mise en place. Elle n'a tenu pour l'instant qu'une seule réunion. La prochaine est prévue le 10 mars, mais on peut dire qu'elle n'est pas très bien engagée, cette commission. Les désaccords sont très profonds. Et au fond, pour vous, le fait qu'on ait détaché la question du financement du texte en lui-même est révélateur du fait qu'on ne se préoccupe plus beaucoup des finances publiques aujourd'hui. C'est ce que vous allez dire aujourd'hui à l'Assemblée à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes.
C'est vrai que la conférence de financement, c'est un truc improbable. Il faut dire qu'amener un texte de cette nature à l'Assemblée sans qu'il soit terminé, c'est quand même incroyable. On vous livrerait une maison que vous avez achetée, si possible, terminée, avec un toit, et on vous livre, en fait, une maison qui n'est pas du tout finie d'être construite. Et les acteurs de cette conférence de financement, ils ont tous envie d'en partir, en réalité. C'est un peu cela. Tout à l'heure, on va recevoir la Cour des comptes à l'Assemblée nationale pour son rapport annuel. Et moi, j'ai envie de dire que, au fond, en dehors de la Cour des comptes, des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et sans doute de la direction du budget au sein de l'État, plus personne ne se préoccupe de finances publiques. C'est comme s'il y avait un abandon des objectifs de finances publiques. Les déficits, la dette, tout ça passe au second plan. Tout ce qui concerne la souveraineté financière de notre pays passe au second plan. On dépense sans compter. Quand on examine un texte comme sur les retraites,
ça ne coûte plus rien peut-être aussi, non?
Mais comme pas uniquement. Oui, enfin c'est une façon de cacher les choses, de masquer la douleur. En réalité, les taux d'intérêt, mais un jour ils vont remonter. Et quand on voit que même le ministre du budget, au fond, n'évoque plus vraiment les efforts qu'il faut faire en termes de finances publiques. Et notre souveraineté financière, c'est notre capacité à produire de la richesse. Et donc, c'est l'avenir du pays. Et quand on voit qu'un texte comme les retraites est un texte qui est examiné sans mesure de financement, avec donc que des mesures de coûts, il n'y a que des mesures de coûts. Vous vous dites, mais où suis-je? Est-ce que j'ai bien rêvé? La France, elle a besoin de retrouver une autonomie financière. On est les plus mauvais élèves de la classe européenne. Vraiment, c'est pas l'opposition subjective qui le dit, c'est l'objectivité, c'est-à-dire la Cour des comptes qui le dit, à la fois en termes de déficit, à la fois en termes de dette, sur tous les plans. On peut pas continuer comme ça. Et il y a un abandon des finances publiques.
Le procès de François Fillon, qui devait commencer hier, a été reporté de 48 heures. Il va donc débuter demain. Qu'est-ce que ça représente, ce procès, chez les LR, chez les Républicains?
Ça nous renvoie quand même au passé de l'élection présidentielle. C'est cela. Je ne peux pas parler pour François Fillon. C'est une souffrance familiale et personnelle et je le comprends infiniment. Mais sur le plan politique, ça nous renvoie à cet échec incroyable de l'élection présidentielle pour des raisons tout à fait extérieures à la vie politique elle-même.
La page François Fillon, elle est définitivement tournée chez les Républicains, oui. Y compris ses idées, y compris son programme.
Non, les idées de François étaient des idées libérales et réformatrices. Donc ces idées-là, elles dépassent
des idées austères.
Je crois pas à l'austérité. C'est pas des larmes du sang. Hein, c'est juste de retrouver un peu de responsabilité. Vous pouvez pas dire sans arrêt, qu'importe ce que je gagne, je dépense à fond. La France a fait ça pendant tout le temps. C'est dans sa nature. Il y a un moment donné. Il faut juste se poser des questions de responsabilité. Tout le monde a envie que les Français gagnent plus. Tout le monde a envie que les Français soient plus heureux. Pour faire ça, il faut un peu de croissance, il faut des qualifications, il faut beaucoup de réformes de toute nature. Et une bonne partie de ces réformes n'a pas été engagée par le gouvernement aujourd'hui.
Très rapidement, Eric Woerth, Rachida Dati a réalisé une remontée assez spectaculaire dans les intentions de vote pour les municipales à Paris. Elle fait désormais jeu égal, voire parfois les devants, même Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle est désormais presque unanimement soutenue chez les Républicains?
Ah oui, elle est unanimement soutenue. Elle a remis un peu d'or d'ailleurs à Paris, et c'est bien. Rachida Dati aujourd'hui, elle peut devenir maire de Paris. Je pense qu'on ne le disait pas il y a quelques mois. Je pense que on aurait ri si on avait dit ça. Aujourd'hui, c'est pas vrai parce que elle s'impose. Elle impose des idées simples aussi. Il faut que ce soit plus propre, il faut que ce soit plus moderne, il faut que ce soit des idées tout à fait simples, pas si simples d'y arriver, mais tout à fait simples, qui la démarquent fortement d'Anne Hidalgo et de La République En Marche, qui est divisée dans cette élection. Donc Rachida Dati, elle peut gagner la ville de Paris.
Merci Eric Woerth, bonne journée.